Je me permets de rebondir sur une prière qui a été dite juste à l'instant, qui remerciait le Seigneur de nous aider à comprendre la parole. Et c'est vrai que le Seigneur nous a donné sa parole, et ce matin j'ai envie de partager avec vous le pourquoi. Pourquoi nous devons lire la Bible et l'étudier? Voilà ce que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce matin. Plusieurs réponses. La première réponse est que tout simplement, nous devrions lire et étudier la Bible parce qu'elle est la parole de Dieu pour nous. 2 Timothée 3, verset 16 déclare que la Bible est inspirée de Dieu. En d'autres termes, qu'elle est la parole de Dieu pour nous. Il y a tant de questions que les philosophes et d'autres se posent auxquelles Dieu a déjà répondu pour nous dans les Écritures. Il a aussi répondu, avec la naissance de Jésus, à beaucoup d'interrogations que se posaient les contemporains de cette époque. La deuxième réponse à pourquoi devons-nous lire et étudier la Bible, c'est que nous devrions lire et étudier la Bible parce qu'elle est totalement fiable, sans erreur. La Bible est unique parmi les soi-disant livres saints. En ceci qu'elle ne donne pas seulement un enseignement moral en disant « fais-moi confiance », elle nous donne plutôt la possibilité de tester sa propre validité en vérifiant les centaines de prophéties détaillées qu'elle transcrit, en vérifiant les récits historiques qu'elle relate et en vérifiant les faits historiques qu'elle expose. Pourquoi devons-nous lire et étudier la Bible ? Troisième réponse. Nous devrions lire et étudier la Bible parce que Dieu ne change pas et parce que la nature humaine ne change pas non plus. Elle est aussi pertinente pour nous que quand elle fut écrite. La technologie change, et tout le monde ne maîtrise pas la technologie, mais les désirs et la nature humaine ne changent pas. Quatrième point sur lequel on pourrait s'arrêter à cette question, devons-nous lire, pourquoi devons-nous lire la Bible, étudier la Bible? Nous devrions lire et étudier la Bible parce qu'il y a tant de faux enseignements. La Bible nous donne l'arme pour déterminer le vrai du faux. Elle nous décrit Dieu. Avoir une impression fausse de Dieu revient à adorer une idole ou un faux Dieu. Comme l'a dit si justement une personne que j'apprécie beaucoup et qui est à côté, quand je lui posais la question sur l'enseignement et l'étude de la parole, elle m'a dit « la connaissance évite l'hérésie ». Et j'étais tout à fait d'accord avec elle. La connaissance évite l'hérésie. Ce matin justement, c'est sur ce point que je veux m'arrêter. À l'époque du Nouveau Testament, Jésus et ses disciples enseignaient les foules et les premières églises ont été soutenues et enseignées par des disciples comme Paul ou d'autres. Malgré cela, des églises sont tombées dans des travers et la Bible témoigne de ces erreurs et des enseignements des disciples qui appelaient à se conformer à la vie selon le Christ. Pour illustrer certaines tendances d'église à suivre de faux enseignements par manque de connaissances et l'importance de corriger par un enseignement plus soutenu et plus clair, je vous propose de parcourir les écrits qui sont les plus anciens du Nouveau Testament. Quels sont ces plus vieux écrits de Paul? Est-ce que vous le savez? Moi j'ai appris une chose. On a l'impression que le Nouveau Testament étant écrit dans un sens... je dirais pas chronologique, mais dans un sens qu'on a l'habitude de connaître, on a l'impression que les premiers sont les plus vieux. Eh bien non, les deux plus vieux écrits, il s'agit de deux lettres séparées dans la Bible en deux épîtres. Est-ce que vous savez c'est quel épître? Il s'agit des deux épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Nous lirons les passages de 2 Thessaloniciens 1, versets 1 à 3, puis un extrait donc, du chapitre 2, versets 1 à 17, et enfin, le chapitre 3, versets 1 à 5. Donc je vous rappelle ce que j'essaie de vous partager ce matin, c'est la connaissance évite l'hérésie. Et pourquoi lire la parole, pourquoi l'étudier, pourquoi la méditer. Deutéronome 1, verset 1. Paul et Sylvain, et Timothée et l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Voici le premier extrait que j'ai voulu partager avec vous et qui montre cette joie qu'a Paul pour cette église qui a appris beaucoup de choses et qui a une grande ascension dans la foi. Puis en 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui vous a aimé et qui vous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Puis un extrait de 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 5. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Pourquoi je vous ai dit que c'était le plus ancien écrit? Parce que d'après des indications géographiques et politiques, cette lettre aurait été écrite par l'apôtre Paul vers les années 50-51, donc moins de 20 ans après la mort et la résurrection du Christ. Elle a été rédigée en grande partie à la première personne du pluriel. Silas et Timothée, comme on l'a vu tout à l'heure, deux proches compagnons de l'apôtre y ont participé. Paul a été ou est probablement le premier à avoir annoncé la bonne nouvelle à Thessalonique. Nous pouvons le voir justement dans au chapitre 17 des Actes, versets 1 à 15. On le voit, c'est Paul qui discute avec les Juifs de Thessalonique et qui leur explique les Écritures pendant trois sabbats à la synagogue. Puis, ayant été chassé par des Juifs jaloux, il demeure encore quelques jours dans la maison de Jason et doit s'enfuir pour éviter la violence. Donc, Paul annonce à cette église la bonne parole. Mais Paul est chassé. Et on peut comprendre aisément que cette précipitation n'a pas permis à Paul d'implanter ce message nouveau pour les Thessaloniciens de façon totalement claire. Paul écrit donc aux Thessaloniciens quelques semaines après les avoir quittés précipitamment. Et il ressent une inquiétude compréhensible. Ces personnes qui ont été touchées par la parole de Dieu et qui sont nées à la vie d'en haut depuis peu, ont-ils acquis une maturité suffisante pour supporter cette opposition dont Paul a vu la manifestation? Les croyants de Thessalonique sont jeunes dans la foi, mais ils n'en sont pas restés à un savoir. Ils sont entrés dans une vie active. On le voit dans les textes, ils ont abandonné les idoles. Ils s'aiment et se structurent en communauté, c'est les premières églises, les églises naissantes. Les chrétiens affrontent des souffrances et la dureté de la vie. Leur foi est éprouvée au fil du temps et leurs réflexions s'approfondissent. Une formule de Paul étonne au verset 10 du troisième chapitre de la première épître. Il dit « Nuit et jour, nous prions Dieu avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Je répète, il dit « Nuit et jour, nous prions Dieu avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » La foi n'est-elle pas de l'ordre de la confiance en Dieu? L'enseignement peut-il permettre une augmentation de la foi? Certes, l'enseignement contribue à alimenter la connaissance de Dieu. Et c'est cette connaissance personnelle de Dieu qui peut augmenter cette foi. Paul souhaite, par amour de Dieu, à permettre aux Thessaloniciens de développer leur vie pratique qui découle de leur foi. Une foi naïve peut donc s'avérer insuffisante, non pas dans la perspective du salut, mais dans la compréhension des implications de la vie chrétienne. La foi ouvre sur un champ nouveau de réflexion et sur des prises de position responsables. La foi n'est pas un aboutissement, mais une porte qui s'ouvre sur de nouveaux horizons où tout reste à construire. Le paragraphe 3 de la première épître aux Thessaloniciens nous apprend que Paul est à Athènes lorsqu'il envoie Timothée à l'église de Thessalonique pour prendre de leurs nouvelles. Plus loin, dans le livre des Actes, au chapitre 18, verset 5, la parole nous montre que Paul se trouve à Corinthe au retour de Timothée, alors que Gallion est proconsul en Achaïe. Et c'est justement ces deux notes, ces deux passages, qui permettent de dater précisément le moment où Paul a écrit ses lettres, en l'an 51 après Jésus-Christ. Paul, à cette période, pense que le retour du Christ est imminent et qu'il sera précédé par un temps d'épreuve. C'est vrai qu'on le voit avec ce premier dimanche de l'Avent, les Juifs attendaient Jésus, attendaient le Sauveur. Le Sauveur est venu, le Sauveur est mort, le Sauveur est ressuscité. Et justement, les Juifs, après cette mort, cette crucifixion, ils attendaient justement le retour de Jésus. Et pour eux, ce retour était imminent. Mais ce retour imminent, qui sera précédé par un temps d'épreuve, est long. Des années s'écoulent. Et cette église de Thessalonique devient impatiente. Cette église s'imagine que le retour de Jésus, justement, était déjà arrivé, qu'il l'avait peut-être loupé, d'où une ferveur débridée, déséquilibrée. Paul s'en aperçoit. et il trouve bon de réécrire aux chrétiens de Thessalonique pour compléter l'enseignement relatif au retour de Jésus-Christ donné dans sa première lettre. Il est agréable de constater le plaisir de l'apôtre quand il pense aux chrétiens de Thessalonique. Derrière sa joie, on devine celle du Seigneur lui-même. Tout allait-il donc très bien ? Non, tout n'allait pas très bien. Il y avait des persécutions, des ennemis, des souffrances bien réelles. Pouvait-on se reposer tranquillement ? Non. Il fallait persévérer dans l'intercession et dans l'attachement à la volonté de Dieu. Ceci confirme ce qu'on peut lire par ailleurs. C'est dans l'adversité que la foi démontre sa vraie nature et porte ses plus beaux fruits. Paul explique donc à ces chrétiens de Thessalonique que le retour de Christ n'arrivera pas tout de suite. Il mentionne un certain nombre d'événements à venir avant ce retour. Il est dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Des signes accompagneront ces événements, des miracles, des prodiges mensongers, une puissance d'égarement. Par là, il exhorte à la patience, à la prudence, au discernement. Mais nous, aujourd'hui, n'avons-nous pas trop bien entendu ce message de patience ? Ne nous sommes-nous pas trop bien installés dans le système ? Patience ne veut pas dire indifférence. L'espérance d'un monde meilleur ne doit pas être mise en sourdine. Elle est là pour nous aiguiller à vivre selon la volonté du Seigneur et pas à vouloir les imposer à tout le monde. Car là, justement, il s'agit de refléter la patience de Dieu. La patience de Dieu, c'est à la fois notre épreuve et notre salut. Nous sommes nous-mêmes si lents à entendre, à croire ce que Dieu dit. Et notre cœur est si enclin à penser, soit maintenant, soit peut-être jamais, passant ainsi de l'impatience au découragement. Et puis nous sommes si prompts à nous laisser séduire par de beaux discours, des chants super, bien rythmés, des vidéos, des spectacles, des concerts super bien présentés. La bombe. La génération Facebook se laisse piéger par des messages flatteurs et par la nécessité de plaire aux autres. Mais tout cela est artificiel. Ce n'est que de la séduction. À la fin de la lettre précédente, au chapitre 5, versets 1 à 3, Paul évoque les paroles de Jésus, que l'on peut trouver aussi en Matthieu 24, versets 4 à 14. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 3, qui dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et n'échapperont point. » Deux messages traversent les extraits. Premier message, vous n'avez pas à connaître la date du jour J du retour de Jésus. La deuxième message, c'est une seule chose à faire, veillez. La traduction top de la Bible utilise un vocabulaire qui rappelle celui de la sécurité routière. Soyons vigilants, soyons sobres. Dans certaines études, on peut dire que la description des résultats de l'emprise de la boisson, faux sentiment de sécurité, fatalisme, indifférence au réel, léthargie, lenteur de réaction, sert de parallèle avec le laisser-aller spirituel, éthique ou physique de nos contemporains. Comment, à l'inverse, l'attente tonique du Christ, la veille nous place dans le réel, dans la compassion, dans l'action, dans la lutte pour l'espoir à transmettre. Nous n'avons pas une foi qui endort, qui place sous tranquillisant, qui anesthésie notre clairvoyance, mais une espérance qui secoue toutes les léthargies et le fatalisme. Veiller, c'est choisir la vie. Dans les versets que nous venons de lire, Paul corrige un faux enseignement qui a cours à Thessalonique selon lequel le jour du Seigneur serait déjà arrivé. L'apôtre, qui avait lui-même insisté sur l'imminence du retour de Christ dans sa première lettre, précise ici les choses en mentionnant les signes qui annoncent la venue du Seigneur. Au premier rang, il y a ce qu'on appelle barbarement, dans le dictionnaire, on va dire l'apostasie. L'apostasie, c'est le retour glorieux de Christ à la fin des temps, en vue du jugement dernier. Non, ça c'est la parousie. Au retour de Christ, qu'on appelle aussi la parousie, retour glorieux de Christ à la fin des temps, en vue du jugement dernier, vient s'opposer l'apostasie, qui est l'abandon public et volontaire de la foi chrétienne. Cette révolte contre Dieu à laquelle Jésus lui-même fait allusion, en Matthieu 24, verset 10, trouvera son expression ultime dans la personnification du mal, l'homme de l'impiété qui cherchera à séduire et à prendre la place de Dieu. Mais qu'est-ce qui le retient? Et qui est celui qui retient son action? Les Thessaloniciens le savaient, mais nous, nous l'ignorons, car Paul ne précise pas sa pensée. Si Paul fait à nouveau référence à l'enseignement de Jésus, on peut y voir une allusion à l'annonce de l'Évangile à tous les peuples, qui aujourd'hui encore reste en cours de réalisation. La Bible vous équipera pour servir. La Bible vous équipera pour servir Dieu. Elle vous aidera à comprendre comment être sauvé de votre péché et de ses conséquences ultimes. La méditer, la lire, la suivre donnera du sens à vos vies. La parole de Dieu vous aidera à identifier le péché dans vos vies et à vous en défaire. Elle vous donnera des directions pour votre vie et vous rendra plus sage que vos maîtres. Tout ça, c'est des extraits de la parole. La Bible vous épargnera de gaspiller des années de votre vie sur ce qui ne dure pas et n'a pas d'importance. Lire et étudier la Bible vous aidera à discerner au-delà du séduisant appât, le douloureux hameçon de la tentation de péché, afin que vous puissiez apprendre des erreurs des autres plutôt que de les faire vous-même. L'expérience est un bon maître, mais quand il s'agit du péché, c'est un maître cruel. Il est réellement préférable d'apprendre des erreurs des autres. Et ces textes de Thessaloniciens et ce commentaire que j'ai lu sur la deuxième épître nous permettent de bien comprendre que même les apôtres, même les disciples ont fait des erreurs. Même le peuple de Dieu, les premiers peuples, les premiers chrétiens ont peut-être mal compris les choses. Et le Seigneur, à travers sa parole, nous donne un équilibre. Il y a un équilibre dans ces deux textes, dans ces deux épîtres. Et cela est pour nous bénéfique. Merci Seigneur. Amen.